Je vous invite, frères et sœurs, sans plus tarder, à tourner vos Bibles à Matthieu chapitre 5 et verset 13. Matthieu chapitre 5 et verset 13. Dimanche dernier, j'espère que vous en souvenez, nous avons parlé de Jean chapitre 11, la puissance de la résurrection. Et ce matin, nous allons continuer donc ce passage dont nous avions déjà vu une partie, le premier verset, et nous allons continuer à regarder le verset 14 au verset 16, dont nous allons lire le texte, Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions. Notre Père, ce matin, nous te demandons humblement de nous accorder ta grâce, ta puissance, pour délivrer ce message, et des oreilles attentives pour entendre, pas simplement écouter et s'en aller comme des auditeurs oublieux, mais en étant des écouteurs attentifs qui voulons vraiment mettre en pratique cette parole divine et être ce que tu nous demandes d'être. Père, nous te prions pour un réveil dans nos cœurs. Ressource nos âmes, nos intelligences. Renouvelle nos esprits dans ta présence et que ce matin, ta bonté, ta lumière jaillisse dans nos vies afin d'illuminer nos cœurs spirituels pour faire resplendir la personne de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et nous t'en donnerons toute la gloire, Seigneur. Amen. On a déjà vu, frères et sœurs, vous êtes le sel de la terre. Et en fait, on a vu que Dieu nous demande d'être ce qu'il déclare que nous sommes, le sel de la terre. Alors, je cherche un petit peu mes notes, j'en ai un peu partout, je vois. Alors, la dernière fois, j'ai perdu ma Bible avec quelques messages dedans, donc je vais essayer d'enlever les messages de ma Bible régulièrement pour pas que si je perds ma Bible, je perde les messages en même temps. Dans ce passage, ici, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous êtes en train de marcher dans de bonnes œuvres? Est-ce que votre vie glorifie Dieu? Votre vie va glorifier Dieu si vous êtes le sel de la terre. On a déjà vu que le sel donne goût, donne envie, et de goûter ce que nous connaissons en Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons parler de la lumière. Ah, c'est un sujet passionnant. On ne va faire qu'esquisser qu'une partie, tellement c'est profond. Mais si vous prenez des notes, vous pourrez ajouter vous-même ces premières esquisses d'un tableau qui parle du fait que Dieu nous déclare comme étant la lumière du monde. C'est une déclaration extraordinaire. La Bible dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde ». Et la Bible ajoute « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ». L'opposé de cacher, c'est vu, c'est regarder. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas avoir une vie cachée. C'est impossible à cela, pour éclairer le monde. Impossible de se cacher, d'après ce que dit Jésus-Christ. Puis on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, le croyant doit éclairer, par la lumière de Christ en lui, tous ceux qui sont dans la maison, enfin, tous ceux qui sont autour du croyant. C'est-à-dire, mais au travail, au sein de la famille, du foyer, partout où nous allons faire le plein d'essence, faire l'épicerie, etc. Tous les contacts que nous avons, nos voisins, nos voisines, les membres de notre famille, on doit être cette lumière que Dieu dit que nous sommes. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Je vais vous dire une chose, ce ne sont pas les sectes ou les témoins de Jéhovah qui sont le sel de la terre, la lumière du monde, ou peu importe la religion. La lumière vient quand on a le Saint-Esprit en soi, qu'on a Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ce matin, nous allons parler de la lumière de la vie. Si vous êtes éclairé, si vous êtes un homme ou une femme qui connaissez Jésus-Christ, vous avez la vie en vous et vous avez une lumière extraordinaire. Ça me fait penser, je lis systématiquement les Écritures pour un programme d'une année, on va s'encourager les uns les autres qui le faisons, et en fait, j'ai lu Moïse qui allait dans la montagne et qui est descendu rayonnant, à tel point qu'il devait mettre un voile, tellement son visage et les pores de son visage transpiraient la lumière, la sainteté de Dieu. Et je crois que la Bible nous enseigne donc à luire, à éclairer, à briller. Alors je me suis dit, tiens, mais on va trouver donc une définition pour la lumière. Alors, je vais vous donner la définition tout d'abord la plus compliquée. Ça y est ? Attachez vos ceintures. C'est mon fils David qui m'a donné cette définition, un scientifique. La lumière est composée d'ondes électromagnétiques. On peut aussi la considérer comme un flux de particules énergétiques dénuées de masse, les photons. Vous me suivez là ? C'est bien. En fait, la lumière blanche est la source des radiations de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, ça c'est plus facile à comprendre. On peut décomposer cette lumière avec un prisme en verre. Ça, c'est la définition de la lumière sur un plan scientifique. Maintenant, si on prenait un enfant sans lui parler de cette définition et qu'on lui dise « Peux-tu, Jacques, André, Paul, me définir ce qu'est la lumière » qu'est-ce qu'il dirait ? Comment pensez-vous qu'il définirait la lumière ? Dirait la lumière. Je pense que la première chose qui viendrait à leur esprit, alors faites-le peut-être à la maison, ce serait la lumière du soleil. Je pense qu'ils penseraient au soleil, la lumière du soleil. Et puis c'est vrai qu'on voit à travers un rayon de soleil parfois par la fenêtre quelques particules poussiéreuses qui s'agitent, n'est-ce pas, et qui tout d'un coup matérialisent par ce rayon la lumière. Mais la lumière quelque part est invisible. Vous essayez de la prendre, elle vous échappe parce que vous ne l'avez jamais attrapée. La lumière est invisible. Alors bon, pour une définition plus simple, j'ai consulté mon dictionnaire français qui me dit c'est ce qui éclaire les objets et les rend visibles. On va revenir à ces définitions. C'est ce qui éclaire les objets et les rend visibles. Et je me suis dit, tiens, c'est comme Dieu finalement. Dieu est en lumière, lui-même se définissant comme la lumière, il est invisible. Si ce n'est qu'on voit les effets de qui il est. La création par exemple, les perfections invisibles hein, dans les cieux et la terre, c'est incroyable. On voit cela, on dit, oh, c'est Dieu qui a fait cela. Et la Bible dit, le fou dans son cœur dit, il n'y a point de Dieu. Lorsque les hommes disent, non, Dieu n'a pas créé les cieux et la terre, la Bible les déclare fous. Et vous savez que Nietzsche a dit, Dieu est mort. Mais Nietzsche est mort fou. On ne se moque pas de Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. On voit les effets de qui il est. C'est pareil pour la lumière. On réalise la lumière par les effets qu'elle produit. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, nous avons, nous les enfants de Dieu, le privilège, écoutez-moi bien, de rendre visible l'invisible. Les gens tâtonnent dans ce monde de ténèbres, ils essayent de chercher Dieu. Qui est Dieu ? Et nous, nous sommes là, et on devrait être comme des lumières qui jaillissent au sein des ténèbres pour rendre visible ce Dieu invisible. La lumière, c'est ce qui éclaire les objets et les rend visibles. Est-ce que Dieu veut qu'on soit cette lumière ? Bien sûr. Dieu veut qu'on reflète la personne de Dieu dans notre vie. Dieu veut faire connaître au monde de ténèbres la lumière de Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Moi, c'est un verset que j'ai accroché au fond de mon cœur. Dieu est lumière. Et Ésaïe dit, par ta lumière, je vois ta lumière. Je suis dans l'obscurité, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin de lumière. Je me confie en Dieu, et par sa lumière, enfin je vois. Et parce que je vois, je peux éclairer les autres, refléter ce qu'il est, sa présence, sa paix, sa joie, sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, dans un monde de ténèbres, de dureté de cœur parfois, le croyant brille avec simplicité parce qu'il est un enfant de Dieu. Il est passé des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à celle de Dieu. Il doit y avoir une différence. Est-ce que votre lumière brille suffisamment pour éclairer ce qui vous entoure? Est-ce que les gens qui nous voient vivre disent ou pensent, peut-être sans le dire en parole, « Ah oui, ils sont différents. » La lumière fait toute une différence, on le verra tout à l'heure. La lumière fait toute une différence. J'aime beaucoup l'évangile de Jean. Je ne sais pas vous, mais l'évangile de Jean est un évangile très simple en parole, mais tellement profond en signification, présentant le Fils de Dieu. Je vous lis les quelques premiers versets. Vous n'avez pas besoin de tourner peut-être dans vos Bibles, mais je vous les lis, ou si vous les tournez, bon, dans vos Bibles, faites-le, hein. Bien sûr, l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et il est écrit, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est terrible ça. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourtant, c'est écrit au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On verra dans un moment qu'il y a des fausses lumières, mais Jésus-Christ est la vraie lumière. J'ai relu Actes chapitre 26, où il est question de la conversion de l'apôtre Paul, enfin de Saul, qui, marchant sur le chemin de Damas, a vu une lumière, il nous est écrit dans le texte, plus puissante que la lumière du soleil. Vous supportez la lumière du soleil? Vous regardez la lumière du soleil? Une lumière plus puissante et une voix s'est fait entendre du ciel. Saul, Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et un peu plus loin, alors aveuglé, l'apôtre Paul, hein, Saul, Jésus lui dit, je t'envoie afin que tu témoignes. Enfin, c'est les mots que j'emploie ici. Je vais vous dire le texte. Afin que tu leur ouvres, je t'ai choisi, voilà. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance à celle de Dieu. Immédiatement éclairé, ou plutôt aveuglé par la puissance de la lumière de Dieu, Saul, c'est déjà sa vocation. Il est impossible de voir la lumière de Dieu et ne pas être inspiré par la suite parce qu'il est illuminé dans le vrai sens du terme. Hein. Les chrétiens ne sont pas des illuminés, on se comprend, mais ils sont illuminés dans l'esprit parce qu'ils ont vu la lumière, quelque chose d'invisible. Et le jour où on a goûté à Dieu que le Seigneur est bon, ça transforme le cœur. La Bible dit « Une heure dans ta présence vaut mieux que mille jours ailleurs ». Ah, je me souviens, frères et sœurs, le soir dans ma chambre, alors que j'étais étudiant ici à Toulouse, un soir dans ma chambre, je me suis mis à genoux au pied de mon lit. J'ai confessé à Dieu, après avoir tâtonné quelques 6 mois d'incertitude, de doute, de tourment, de combat. Et le diable ne voulait pas me lâcher. Hein. Et puis, ce soir-là, j'ai confessé mes péchés à Jésus-Christ. Enfin, j'ai compris que Dieu pouvait pardonner, qu'il était miséricordieux, qu'il était vivant, parce que j'avais du mal à croire que Dieu était vivant, qu'il pouvait faire quelque chose pour moi. Et ce soir-là, j'ai reçu tout d'un coup la paix de Dieu, l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Une heure dans ta présence vaut mieux que mille jours ailleurs. Par la fraction de seconde où on est connecté avec Dieu, touché par l'amour de Dieu, la vie est transformée. Il suffit juste d'un instant, oh, d'une étincelle de l'amour de Dieu dans nos vies pour réaliser l'éternité de son amour. C'est extraordinaire de connaître cette lumière. Vous, au contraire, 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes une race élue, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Moi, je ne sais pas vous, mais le message de la lumière de Dieu me bouleverse. Je trouve que c'est un message de toute beauté et c'est bon d'être dans la lumière, dans la vérité, de ne plus être dans les ténèbres, de ne plus tâtonner au hasard des circonstances, des pensées, des philosophies de ce monde. Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière », mais il a dit « Je suis la vraie lumière ». Parce qu'il y a des fausses lumières. Il y a des gens qui se prennent pour des lumières, sans jeu de mots, et qui essayent d'éclairer tout le monde. Alors, il y a les gourous. Je me souviens avoir vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça remonte à très longtemps, il y avait une sœur dans le Seigneur en Angleterre qui était responsable par le gouvernement, choisie par le gouvernement, de dénoncer les sectes. Elle avait fait toute une cassette vidéo sur notamment, alors sans blesser personne, sur l'hindouisme, et où les adeptes des gourous, pour être disciples, devaient boire l'urine des gourous, se plonger dans leurs excréments. Et elle a dénoncé toute espèce d'excès, n'est-ce pas, de philosophie de ce monde, de religion perverse et pervertie, où on remplace, on fait l'homme Dieu, alors que Dieu s'est fait homme. Et on a déplacé tout cela. D'ailleurs, la Bible dit, il ne faut pas s'en étonner, que Satan se déguise en ange de lumière. Le monde va mal aujourd'hui. Toutes les, je ne sais plus, 15 secondes, j'avais marqué déjà sur ces notes, il y a très longtemps, il y a un avortement aux États-Unis. Toutes les 15 secondes. Alors, dans le monde, il y a toutes sortes d'abus. Les ténèbres des sectes, des philosophies orientales, du Nouvel Âge qui est encore là, et toute espèce de pratique occulte. Aveugle, conducteur d'aveugles. Et pourtant, je peux vous dire, je me souviens un jour être allé, alors qu'on était en passage en France, venant du Canada, avec mon épouse, on est rentré dans une grande surface commerciale, et ils avaient, pour fêter je ne sais pas trop quoi, mis sur les allées, et c'était immense, hein, des petites tentes où tous les 15 mètres, gratuitement, on pouvait aller consulter une voyante. Et ma femme et moi, on a dû sortir de ce magasin tellement on sentit une pression qui n'était pas la lumière de Christ. Le monde, par les ténèbres, essayer de plonger d'autres avec encore plus de ténèbres. Les ténèbres appellent les ténèbres, tandis que la lumière de Christ appelle la lumière. C'est extraordinaire. Le jour où on a goûté à la lumière, on ne veut plus rester dans les ténèbres. C'est tellement bon d'être à la lumière et exposé à Dieu. Ah, ça prend un risque, le risque d'être connu par Dieu. Et alors, évidemment, Dieu sourit en nous voyant parce qu'il nous connaît. Il sait quand nous nous levons, quand nous couchons, ce que nous pensons, ce que nous disons, nos plans. Et puis, il nous aime quand même. Il nous éclaire pour nous transformer. Il nous éclaire pour nous sanctifier, pour nous purifier, parce qu'il nous aime pour pas qu'on reste dans les ténèbres. C'est merveilleux, cela. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous étions avant, disait l'apôtre Paul, en Éphésiens, des enfants de colère, et maintenant nous sommes devenus des enfants de lumière. Nous étions des enfants de ténèbres, et maintenant nous sommes devenus des enfants de lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Alors je vous invite à tourner dans la première épître de Jean. Alors qu'est-ce que Jean nous apprend des choses au sujet de la lumière ? 1 Jean à partir du verset 1. C'est extraordinaire. Il est écrit, 1 Jean, chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. L'apôtre Jean parle d'une communion avec Dieu qui automatiquement amène une communion avec ceux qui connaissent aussi Dieu, les frères et sœurs. Pourquoi vous avoir lu cela ? Mais pour la suite, évidemment, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Vous n'avez jamais été trompé par des intellectuels, par des philosophes. Ah, je me souviens en terminale les cours philosophiques, qu'est-ce que j'ai transpiré, moi. J'avais tellement envie de connaître la vérité. Vous n'avez jamais été trompé dans votre recherche intellectuelle des choses ou par d'autres. Dieu est lumière. Il ne trompe jamais. Il ne vous décevra jamais. Il est la lumière du monde. Si nous disons, alors j'en viens là, vous vous souvenez le verset, marchons donc dans la lumière. Dieu nous appelle à marcher dans la lumière. Il est écrit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, koinonia, hein, en relation avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu nous appelle à marcher dans la lumière. Et regardez ce qui est ajouté ici. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière dans lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ah là, on est tous d'accord. Mais la fin de ce verset, je ne suis pas sûr que tout le monde va être d'accord. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On est d'accord d'être en communion les uns avec les autres. Mais il y a une dimension qu'il ne faut jamais oublier. La communion est proportionnelle à la confession du péché chez les croyants envers leur Dieu. C'est dans la mesure où on se laisse purifier par le sang qu'on peut être en communion avec les autres. Ma communion fraternelle est proportionnelle et dépendante de ma communion avec Dieu le Père, qui est lumière. Et parce qu'il est lumière, il dénonce ce qui est péché dans ma vie. Ce qui doit être transformé, ce qui doit être purifié. Et si je vis comme ça dans l'humilité devant Dieu, je serai humble envers mes frères et sœurs et je vais accepter que même mes frères et mes sœurs, ah, quel mal leur a pris de me connaître tel que je suis. Ça demande le risque de vivre dans la lumière, de confesser les uns aux autres nos péchés, de les abandonner pour être capable de vivre dans cette lumière. Ça demande du courage. On est d'accord d'idéaliser l'Église. Mais vous savez, le prix du réveil, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique et c'est de marcher dans la lumière. De reconnaître qui nous sommes incapables. Mais Dieu, lui, peut tout parce qu'il est cette puissance, cette lumière divine qui jaillit dans nos cœurs, qui peut nous transformer. Avez-vous envie de vivre le programme de Dieu dans l'Église? Je pense à une illustration qui me vient à l'esprit, le four solaire d'Odeio. Vous êtes déjà allé à Odeio, proche de Perpignan? Alors c'est magnifique, c'est la ville la plus ensoleillée d'Europe. Ça y est, tout le monde y va. 3000 heures de soleil par an. Tout le monde a envie, enfin moi j'aime le soleil depuis que j'ai vécu dans un climat très froid qui durait des mois, je peux vous dire que j'apprécie le soleil et je ne me plains plus de la chaleur. Après 6 mois d'hiver continu à moins 40 degrés, notamment en février, je ne suis plus capable de me plaindre de la chaleur et du soleil, tellement c'est beau et agréable d'être sous le soleil. Bien sûr, le soleil divin d'autant plus. Mais voyez-vous, le four solaire a pour but de focaliser les rayons solaires en un point pour faire des expériences, alors à des plusieurs milliers de degrés grâce au rayonnement du soleil, centré sur un seul point, ça crée une chaleur telle qu'on appelle un four solaire où il y a des expériences qui se font à plusieurs milliers de degrés Celsius. L'Église, c'est un peu pareil. Si maintenant on maximise cette parabole, si vous voulez, ou ce four, maintenant où chaque croyant, symbolisé par les mille et un miroirs que forme, n'est-ce pas, cette parabole, si chaque croyant maximise son rayonnement parce qu'il cherche le meilleur angle du soleil, ça c'est vrai pour chaque croyant, non? On cherche la lumière de Dieu. Alors, quand on reflète le maximum de lumière tous ensemble, on est comme cette parabole gigantesque qui devient un four et qui crée, en tant qu'Église, un témoignage puissant sur le monde. Nous focalisons la lumière qui est la vie de l'Église dans le monde. Et j'espère que nous sommes prêts à nous exposer par cette lumière au monde afin que les ténèbres soient éclairées et que les gens aient envie d'être transformés. Parce que, quelque part, c'est difficile de résister. Le cœur le plus dur, sous l'effet, comme beurre fond au soleil, on dit, sous l'effet de la puissance divine, où nous, les enfants de Dieu, devrions refléter cela. Il devrait se passer quelque chose autour de nous et que les gens aient envie de connaître la même lumière. Et Oswald Smith, dans son livre « La passion des âmes » disait « Plus le phare est intense à sa source, plus il éclaire au loin. Plus l'Église vit dans la lumière, plus elle a envie que cette lumière aille jusqu'aux extrémités de la terre et éclaire le monde. Et on peut dire aujourd'hui que le monde est dans les ténèbres. Vous savez, ça me vient à l'esprit, parfois les gens d'Amérique du Nord pensent que oh, la France, c'est chrétien, mais c'est christianisé, mais c'est pas chrétien. La preuve, la difficulté qu'ont les enfants de Dieu à vivre une vie chrétienne sur ce terrain difficile. Alors, nous sommes cette lumière. Encore une fois, Dieu est invisible. Donc, comment le rendre visible? Eh bien, je vous ai pris tout à l'heure le temps de lire, j'ai pris le temps tout à l'heure de lire la définition scientifique. En conclusion, c'était que le prisme peut montrer la lumière en décomposant la lumière, n'est-ce pas, par les couleurs de l'arc-en-ciel. Et moi, j'ai pensé, tiens, retenez cette image ce matin au moins, le croyant n'est-il pas un prisme que Dieu a choisi pour que cette lumière divine qui vient dans son cœur reflète la beauté, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Mais c'est beau l'arc-en-ciel, non? Alors est-ce que l'enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, qui est la lumière du monde, est-ce qu'il n'y a pas une beauté divine sur lui? Oui, la beauté parce que le prisme reflète et montre et rend visible cette lumière invisible et devrait éclairer les hommes et dire « Ah oui, cet homme, cette femme est différent. » La lumière différencie les choses et les gens. Est-ce que nous sommes vus comme cela? Alors, de façon pratique, essayons d'être un peu plus rapide ce matin. Que fait donc la lumière? Tout d'abord, elle éclaire. Elle éclaire. Alors, j'avais noté, je ne sais pas si je vais le retrouver. Oui, j'ai marqué, je suis allé dans le dictionnaire encore une fois. Alors, qu'est-ce que c'est luire? C'est briller en produisant la lumière. Qu'est-ce que c'est qu'éclairer? C'est répandre de la clarté de la lumière, de la lumière. Briller, c'est jeter une lumière éclatante, avoir de l'éclat. Alors, quand on dit que l'enfant de Dieu est une lumière, ben, il doit briller, il doit éclater quelque part, à tel point que il passe pas invisible. Hein? Comprenez tout cela. La lumière éclaire. Alors, il est écrit au Philippiens 2, verset 15, je vous le lis, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser au jardin de Néron, éclairé par des torches vivantes qui étaient les croyants accrochés à des poteaux, brûlés vifs parce que croyants. C'est dans la mesure où le croyant sera prêt à se consumer pour Christ qui va briller. C'est quand on meurt à soi-même, qu'on se consacre au Christ, qu'on va briller. C'est dans la mort qu'il y a la vie. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte vie. C'est dans la mort à soi-même que la lumière de Christ va d'autant plus briller, même si on est comme des vaincus aux yeux du monde. Jésus-Christ était comme vaincu à la croix, mais pourtant c'était le grand vainqueur. Et nous, c'est la même chose. Aux yeux du monde, on est comme des vaincus. Et pourtant, nous sommes les vainqueurs parce qu'on a un jour voulu être vaincus par Christ pour devenir des vainqueurs. Et pour cela, on doit mourir. Mourir à soi-même et peut-être mourir martyr, si ça devait être le cas, comme des flambeaux dans le monde. Et ces croyants du temps de Néron ont été prêts à donner leur vie, à brûler littéralement corps, de tout leur corps, parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur foi en Jésus-Christ. Car Dieu a dit, 2 Corinthiens 4, verset 6, « La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir. » Qu'est-ce que c'est beau ça? « La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Il est impossible de passer du temps avec Dieu sans connaître Jésus-Christ. Il est impossible de passer du temps avec Jésus-Christ sans connaître Dieu. Laissez-moi vous donner une illustration. L'idée qu'on ait des miroirs ou des prismes, il y a une illustration qui est juste proche de nous. Le soleil, la lune et la terre. Alors c'est une illustration, donc c'est toujours limité dans son application. Mais vous savez, la lune, on dit que c'est une planète morte. On est d'accord ? Enfin, on a même vu de nos yeux, puisque ça a été filmé, les gens qui sont allés sur la Lune. Mais pourtant, elle est claire. la lune. Tous les soirs, on regarde la lune. Alors c'est pleine lune, c'est moitié lune, c'est quart de lune, enfin c'est comme vous voulez. C'est comme les croyants, il y a des croyants bien lunés, mal lunés. Hein? Mais pourtant, les croyants, ils sont comme ces terres mortes. On est mort par soi-même. Vous avez la vie en vous à part Christ. On est mort sur le plan spirituel. Mais parce qu'on est sous l'angle du soleil, on est ce miroir sur la face du monde pour éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Et le soir des ténèbres, la lune est claire, n'est-ce pas? Et quand c'est pleine lune à la Bruyère d'Orsa, pour ne pas mentionner où nous habitons, je peux vous dire que sur cette colline, petite colline où nous habitons, tout d'un coup, tout semble éclairé. Le Seigneur a sorti sa chandelle. C'est merveilleux. Quand la lune brille, c'est parce qu'elle est tout simplement le miroir, le reflet sous un angle du soleil sur la terre. C'est la même chose pour les croyants. Nous sommes de nature morts. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait de nous des miroirs qui brillent à la face de la terre. Non seulement la lumière éclaire, elle brille, mais aussi elle dirige. Ta parole est une lampe à mes pieds. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous avez besoin de direction dans votre vie? Qui n'a pas besoin de savoir que c'est bien par là le meilleur chemin? Eh bien, la Bible dit « ta parole est une lampe à mes pieds ». On lit la parole, on est éclairé sur la pensée de Dieu. Dans la prière, le Saint-Esprit illumine notre esprit pour comprendre les Écritures, pour nous diriger, pour nous orienter, parce que nous ne voulons plus marcher comme des égarés, mais parce que nous voulons marcher sous la lumière de Christ. Aussi, elle différencie les choses et elle-même change l'état. Et j'allais dire que, oui, reprenons l'exemple du four d'Odeio, si vous mettez quelque chose à un solide à plusieurs milliers de degrés, il peut se liquéfier. C'est la même chose pour nous, quelque part, sous la puissance de Christ. Le cœur le plus dur devient le plus tendre. Passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Et bien sûr, nous allons être certainement à contre-courant de ce monde. Quand le chrétien, lui, eh bien, il est à contre-courant parce qu'il lui parmi les ténèbres, et parfois les ténèbres ne l'acceptent pas. Alors, pour aller un petit peu plus loin, quel est le contraste entre la lumière et les ténèbres pour le croyant? On va terminer avec cela. C'est la différence entre la vie et la mort. C'est la différence entre la vie joyeuse, pleine d'espérance du croyant et celle de l'incroyant, maussade et désespéré, parce que sans Dieu et sans espoir dans le monde. C'est la différence entre la vie douce et la vie amère, où il n'y a pas de pardon, de guérison. C'est la différence entre la paix et l'angoisse, entre la quiétude, le calme et une agitation permanente. C'est la différence entre une vie réglée parce que contrôlée par Dieu et une vie indisciplinée au hasard des passions de la chair. C'est aussi une vie libre à la différence de la vie d'esclave. Et c'est la différence, pour terminer, je dirais, entre le ciel et l'enfer. Plus la lumière brille, plus le contraste apparaît. D'où l'apôtre Paul et son appel de dire « marchez comme des enfants de lumière ». Car le fruit de la lumière, écoutez-moi bien, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Comment les gens vont-ils connaître la lumière de Dieu? Par le fruit de l'Esprit chez le croyant qui est le reflet de la lumière de Dieu pour rendre visible ce qui est invisible, Dieu lui-même. En conclusion, j'aime bien Ésaïe, chapitre 5, verset 10, qui dit ceci, je vous le lis, « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Imaginez que vous êtes dans des problèmes financiers, puis quelqu'un vous donne son carnet signé sur tous les chèques. Il dit, voilà, tu peux aller à la banque débiter tout l'argent dont tu as besoin. Moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un comme ça, ça m'arrangerait bien. Vous aussi? Eh bien, voyez-vous, c'est encore plus grand avec la lumière de Dieu. Il a signé un chèque, pas en blanc, mais par le sang de Christ qui nous a purifiés de tous nos péchés. Et cela, c'est un don de Dieu, afin que nous marchions dans la lumière, parce que lui a payé le prix à la croix du calvaire. Nous avons la possibilité, toujours, malgré notre dette, notre débit, parce que vivant parfois dans des ténèbres, de toujours aller à la banque céleste rechercher cette lumière, parce qu'elle nous est donnée et qu'elle est infinie. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.